Point de mire.
Une association, une œuvre, une fondation.
Une émission de la rédaction de Canal Académie.
Une action, une organisation, une institution.
On retrouve Christophe Dickès.
Bonjour à toutes et à tous, merci d'être à l'écoute de Canal Académie. Point de mire vous propose aujourd'hui de partir à la découverte d'un site internet, un site internet thématique, un site entièrement consacré à la muse Clio. Il s'agit d'Hérodote.net. André Larané, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes fondateur donc du site internet Hérodote.net, plus de 20 000 visites par jour, 3 millions de pages lues par mois, c'est bien évidemment énorme. Une équipe de direction mais aussi des rédacteurs répartis dans le monde. Quand est-ce que le site a vu le jour, André Larané?
Le site a vu le jour de façon informelle il y a pas loin de 10 ans, mais il n'a pris une dimension véritablement professionnel que, disons, il y a 4 ans.
L'origine du site est très intéressante, puisque finalement, au départ, vous cherchiez à partager un savoir entre amis.
Oui, il est né sans que j'y songe, sans que je pense à faire un site comme il est aujourd'hui. Au départ, il s'agissait, pour moi, qui ai toujours aimé l'histoire, de partager effectivement des petites histoires relatives à des événements passés, avec des amis. Donc, j'ai découvert Internet il y a donc plus d'une dizaine d'années. J'ai fait un petit site personnel et j'ai envoyé à des amis, jour après jour, un petit récit de quelques lignes sur un événement dont c'était anniversaire. Cela pouvait être le sacre d'Othon Ier ou la prise de la Bastille. Au bout de quelques mois, c'est devenu un volume assez important pour que j'en fasse un site, que je le rassemble sur mon site personnel. Et puis, de proche en proche, avec l'affluence des visiteurs, c'est devenu aujourd'hui Hérodote.net, c'est-à-dire un site qui comporte, je pense, un peu plus de 2000 articles, beaucoup de liens, bien sûr, des ressources, plusieurs dizaines de cartes, dont beaucoup d'animés, animations cartographiques sur telle ou telle période, des chronologies, des frises aussi, et tout ce que l'on peut faire avec Internet pour mieux saisir l'histoire.
Alors, vous êtes un passionné d'histoire, nous ne l'avons pas dit, mais vous êtes journaliste. D'abord, vous êtes ingénieur, puis ensuite, vous êtes devenu journaliste industriel et scientifique. Vous avez toujours gardé l'histoire dans votre cœur, puisque vous avez passé votre licence d'histoire. Alors, Hérodote.net n'est pas simplement un site internet, c'est une entreprise, le site le dit, qui édite aussi d'autres documents sur d'autres supports.
Bien sûr, oui. Alors, avec les éditions Librio, par exemple, je publie des livres consacrés à l'histoire, des petits livres. Il y a eu Chronologie universelle. Aujourd'hui, je prépare les grands noms de l'histoire et un autre livre sur les grandes dates de l'histoire de France. Il y a aussi des CD-ROM et des DVD que nous avons fait avec des spécialistes du multimédia. Donc nous avons fait bien sûr le CD-ROM Hérodote qui reprend tout le site avec des ressources supplémentaires audiovisuelles. Le temps de la Renaissance, le temps des châteaux forts, ce sont des CD-ROM qui ont beaucoup de succès auprès de nos lecteurs. Et donc voilà.
En fait, votre parcours fait un peu penser, ou ça va vous faire plaisir, à celui de Michel Moore, qui, au fur et à mesure, amassait des connaissances. Hérodote a la même fonction. C'est-à-dire, c'est un Wikipédia, mais amélioré, centré uniquement sur l'histoire.
Autant j'aime beaucoup la référence à Michel Moore, que je trouve très flatteuse, parce que le Moore reste de toute façon pour moi la référence en matière de documentation, et quand j'ai une hésitation sur quoi que ce soit, quand je suis confronté à des informations contradictoires, je me réfère au Moore comme à la référence fondamentale. J'aime un peu moins la référence à Wikipédia, je vous l'avoue, autant sur le plan de la présentation, de la navigation, que de la fiabilité du contenu et de l'agrément de lecture, puisque mon souci à travers Hérodote.net et ce que j'impose à mes rédacteurs, c'est avant tout la qualité de l'écriture. Alors, il ne s'agit pas de faire du style comme tant de bons historiens le font dans leurs livres, Nous ne sommes pas dans le support de l'écrit et de l'imprimé, nous sommes dans le support de l'Internet et de l'audiovisuel. Donc il s'agit d'écrire de façon synthétique. La lecture sur écran ne se prête pas à du style, mais à de la concision. Donc c'est sous cet angle-là, la qualité de la lecture, le caractère concis, synthétique, que je porte mes efforts et que je ne retrouve pas sur d'autres sites comme celui que vous avez cité.
Alors c'est un site justement très pédagogique. Il y a de nombreux outils qui permettent, qui aident, que ce soit le jeune chercheur ou bien l'étudiant. Il y a une partie éducation qui est tournée uniquement vers le collège et le lycée.
Tout à fait. Alors autant ça me fait très plaisir d'avoir des lecteurs qui me disent à 60 ans passés, parfois à 80 ans, je redécouvre sur Internet le plaisir de l'histoire où je rattrape tout ce que je n'ai pas appris quand j'étais jeune à l'école. Mais autant cela me fait plaisir, et j'allais dire encore plus, d'avoir des jeunes collégiens, lycéens, qui me disent j'ai enfin compris les sujets sur lesquels j'étais en peine à l'école. Qu'il s'agisse de Jeanne d'Arc, de l'islam ou de tout autre sujet au programme scolaire. Donc de ce point de vue, nous sommes très attentifs à être compréhensibles par les jeunes. Et encore une fois, nous ne voulons pas faire d'enrobage, de discours. Nous nous en tenons à l'essentiel. Et mon souci est toujours, dans l'écriture d'un article, d'être compris par un jeune qui, a priori, dont je pense qu'a priori, il ne connaît rien au sujet. Donc, je fais en sorte de pouvoir l'intéresser d'abord au sujet et ensuite l'amener par progression à mieux le cerner.
Je comprends pourquoi vous n'aimez pas cette référence à Wikipédia. Donc, un site vraiment pédagogique, sans nul doute. Alors, une partie du site, c'est très important, une partie du site est accessible librement et l'autre partie, elle, est accessible après rémunération.
Oui, c'est ce qui nous permet aussi de nous développer sans avoir à recourir à la publicité et puis aussi en faisant appel à des moyens sophistiqués et coûteux. Alors, le site est accessible effectivement, comme vous l'avez dit, librement. Et toute personne qui est suffisamment intéressée pour avoir envie d'aller plus loin peut aussi, en versant sa cotisation aux Amis d'Hérodote, 12 euros par an, accéder à cette partie privée ou privative. Alors, cette partie privée, ce sont des ressources complémentaires pour quelqu'un qui est suffisamment passionné pour avoir envie, comme je vous l'ai dit, d'aller plus loin. Par exemple, beaucoup d'articles sont en deux versions. Une version synthétique, relativement courte, pour toute personne qui a le désir d'en savoir un minimum. Et puis une version dense, enrichie de documents, enrichie de cartes et d'illustrations, pour les personnes qui veulent aller plus loin, et qui donc, dans ce cas, vont faire partie des Amis d'Hérodote.
Alors, vous n'êtes pas le seul collaborateur. Vous disiez tout à l'heure que vous écriviez les articles avec une volonté pédagogique, d'approche du sujet, mais vous n'êtes pas le seul rédacteur.
Oui, bien sûr, et heureusement. Alors, j'ai le plaisir, c'est aussi la force d'Internet, d'avoir pu me mettre en relation avec des personnes très compétentes du monde entier. Parmi mes collaborateurs, je peux citer James Day, qui est un professeur de civilisation française à l'Université de Caroline du Sud et qui connaît et pratique Hérodote.net depuis plusieurs années, qui m'apporte ses contributions sur l'histoire des États-Unis et de l'Amérique du Nord. Je peux citer Isabelle Grégor, qui est une docteure ès-lettres, qui est très, très férue et passionnée par tout ce qui concerne les grandes découvertes et qui m'a apporté de très beaux articles sur ce sujet. Plusieurs autres contributeurs de par le monde m'apportent leurs compétences, toujours avec le souci de pédagogie, de clarté, de synthèse.
Ce sont eux qui choisissent les sujets ?
Qui me les proposent, oui. Ils me les proposent, on en discute. Et je veille à ce qu'ils puissent les mettre en forme sous l'angle qui est celui d'Hérodote.
Est-ce que tout historien ou tout professeur peut participer au développement d'Hérodote en envoyant des articles, en vous les proposant ?
Tout à fait, c'est très volontiers que j'accueille les contributions. Encore une fois, il s'agit de bien préciser l'objectif de ces contributions, c'est non pas de se faire plaisir à soi-même en tant qu'auteur, mais de vouloir apporter à des lecteurs de tous niveaux, des jeunes, des enseignants, des personnes plus âgées, des amateurs, de vrais professionnels de l'histoire, de vouloir leur apporter une entrée sur un sujet qu'a priori ils ne connaissent pas. Donc il faut savoir être clair, savoir se limiter, savoir être pédagogue, synthétique et ordonné pour avoir un article qui soit abordable aussi bien par le jeune collégien que par le professeur.
Alors vous avez 6 grandes rubriques, hein, ou plutôt 5 grandes rubriques. La première rubrique, bon, c'est la rubrique actualité, j'allais dire de manière très classique, vous essayez de lier actualité et histoire. La deuxième rubrique est très importante, surtout en notre époque où on a tendance à oublier que l'histoire c'est d'abord une chronologie, c'est donc la partie date. C'est une partie importante du site.
Ah, tout à fait, oui. Je crois, comme vous le dites très bien, c'est que l'histoire c'est avant tout la chronologie, c'est le temps. Si on n'arrive pas à situer les événements dans le temps, on ne peut pas comprendre l'histoire, on ne peut pas la saisir. Malheureusement, aujourd'hui, je crois qu'il y a un problème à ce niveau dans l'éducation nationale par rapport à la chronologie, mais on ne va pas aborder ce sujet. Donc effectivement, à travers des frises chronologiques, à travers une représentation chronologique de l'histoire en plusieurs périodes, nous mettons l'accent sur cette succession d'événements. Et nous essayons de les resituer, de resituer tous les événements, tous les personnages dans le temps. Je mets l'accent aussi sur une frise qui me plaît bien, qui est l'œuvre de mon informaticien, qui concerne les grands personnages de l'histoire et qui représente tous ces personnages de leur naissance à leur mort et permet de les mettre en lien les uns par rapport aux autres. C'est ainsi que l'on peut voir quel âge avait Louis XIV quand est mort son père ou d'autres pères, quel âge avait Corneille quand est né Louis XIV précisément.
Donc la chronologie est très importante, c'est un site très dynamique, hein, parce qu'il y a même des bandes son qui permettent d'avoir un éclairage sonore sur les différents écrans.
Oui, tout à fait, oui, pour commenter ces frises chronologiques en particulier, nous avons recours à l'audiovisuel et nous en connaissons, nous en apprécions toutes les ressources comme ici avec Canal Academy.
Alors, l'autre, après les dates, il y a bien évidemment les dossiers. Je lis le site « Entrer dans l'histoire à travers nos 2000 récits de Sumer à l'Irak, du premier empereur chinois à De Gaulle. Vous en oublierez le temps qui passe. » Il y a donc plus de 2000 dossiers consacrés, 2000 thématiques qui sont divisées en autant de grandes périodes historiques, la préhistoire, le temps des prophètes, le haut Moyen-Âge, la naissance de l'Europe, etc.
Tout à fait. Alors, effectivement, l'avantage de l'Internet ici prend tout son sens puisque tous ces articles peuvent se mettre en lien les uns par rapport aux autres grâce à l'hypertexte. Donc, on peut naviguer d'un sujet à l'autre et mieux comprendre ainsi les différents tels sujets que l'on va aborder. Il est difficile de parler de Jeanne d'Arc si on ne revient pas sur le règne de Charles VI ou sur le règne Charles VIII, Charles VII. Donc, on peut se mettre en relation entre, on peut mettre ces différents articles et dossiers en relation les uns avec les autres, ce qui facilite beaucoup la lecture et la compréhension pour les personnes qui, a priori, n'ont pas une connaissance très détaillée du sujet.
Alors, les dossiers sont éclairés par une autre rubrique que sont les documents, ce sont les archives, les cartes d'histoire, les galeries d'images. Je renvoie nos auditeurs à votre site. Il y a une rubrique sur laquelle je m'arrêterai peut-être plus volontiers. Également, ce sont les mots d'histoire. On les connaît, mais on ne les connaît jamais assez.
Oui, alors, ce qui me paraît important à travers notre rubrique citation, qui comporte plusieurs centaines de mots effectivement historiques, c'est que nous essayons à chaque fois de mettre ces citations en relation avec leur contexte historique. En effet, on peut, et beaucoup de sites d'histoire sur Internet ou de citations présentent effectivement des foultitudes de mots, mais l'important me paraît être, c'est ce que nous essayons de faire ici, de mettre ces citations en relation avec leur contexte, et souvent d'ailleurs valider ou d'infirmer leur pertinence. Une citation, par exemple, que nous présentons en page d'ouverture de notre page, citation, donc de la rubrique, concerne cette fameuse citation de Voltaire, qui a été encore reprise récemment lors d'un procès concernant la liberté d'expression.
Et je ne partage pas vos idées, mais je me battrai pour que vous puissiez les exprimer.
Voilà, il est tout à fait intéressant de rappeler que cette citation n'est pas de Voltaire. Elle a été inventée après coup. Et disons, disons tout de même que Voltaire ne l'aurait pas prononcé tel quel, étant connaissant son activité, connaissant son tempérament, connaissant sa propre intolérance à l'égard de ses adversaires, il n'aurait sans doute pas prononcé ces mots.
Oui, donc vous resituez chaque citation dans son contexte et vous détruisez un peu les mythes en réalisant un devoir d'histoire.
Tout à fait, c'est ce qui me paraît très important. Encore une fois, effectivement, et je crois que c'est la vocation que nous avons en tant que médias, de lutter contre les idées convenues et de revenir aux sources de la documentation, aux sources de l'historiographie, pour rester dans le vrai autant que possible.
Alors, je vais me permettre de citer l'autre citation qui, ce matin, nous enregistrons cette émission, ce 3 juillet. Cette date est importante parce que, d'ici quelques jours, le nouveau site sera mis en ligne. Vous avez un graphiste qui travaille pour vous et qui va mettre en ligne, dans les prochains jours, donc le nouveau site.
Tout à fait, oui, nous sommes en train de rénover Hérodote.net, de le moderniser, mais je crois que cela est un travail de tous les médias qui, périodiquement, éprouvent le besoin de franchir un nouveau pas, de s'adapter. Et effectivement, nous avons pris aujourd'hui une certaine ampleur dans le contenu qui nous oblige à revoir notre navigation, notre organisation et notre graphisme aussi, pour le rendre encore plus attrayant, si possible.
Alors, je me permets de citer donc cette citation d'Olympe de Gouges, dont les dates sont les suivantes, 1741-1793. « La femme a le droit de monter à l'échafaud, elle doit avoir également le droit de monter à la tribune. »
Bien sûr, oui. Donc, Olympe de Gouges est très connue de tous les féministes, toutes les féministes, puisqu'elle est à l'origine d'une déclaration des droits de la femme. Et effectivement, c'est un peu la patronne du féminisme et de la femme, des droits de la femme.
Eh bien, c'est sur ces mots, André Larané, que nous allons nous quitter. Je rappelle la référence de votre site, Hérodote.net. Peut-être une dernière question, mais je pense que nos auditeurs en connaissent la réponse. Pourquoi Hérodote ?
Hérodote est le père de l'histoire, effectivement. On lui doit le mot même d'histoire, hein, puisque ces enquêtes sont à l'origine de cette science que nous apprécions l'un et l'autre, et d'une méthode. Il l'a mise au point, lui, le premier.
D'accord, très bien. Bah, écoutez, je vous remercie beaucoup, monsieur Larané, et à très bientôt pour une nouvelle émission Point de Mire.